France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un accusé et près de 300 victimes, l'un des plus vastes procès pour pédocriminalité s'ouvre en ce moment en France à Vannes. L'ex-chirurgien Joël Le Squarnec est jugé pour viol et agression sexuelle aggravée. Il a reconnu la plupart des faits. Nous sommes sur place dans un instant. À suivre encore l'enquête sur la cavale de Mohamed Amra, l'homme arrêté samedi en Roumanie. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et de nouvelles interpellations ce matin.
Oui, des cibles établies depuis des mois en attendant de localiser l'ennemi public numéro 1. Plusieurs réseaux présumés de soutien logistique et des membres du commando d'Incarville qui ont permis l'évasion de Mohamed Amra. 30 personnes au total à peu près. Interpellation également en Espagne et au Maroc.
A tout de suite pour vos informations. Ce coup de théâtre au procès de l'attentat de la basilique de Nice, l'auteur présumé est passé aux aveux ce matin en plein procès. Les 3 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous serons à Kiev dans quelques minutes. Kiev où les leaders européens apportent leur soutien à l'Ukraine, à Berlin. Également, les conservateurs allemands qui ont gagné les élections hier déclarent leur indépendance vis-à-vis des Américains. À Marseille aussi, attaque contre le consulat de Russie ce matin. Des bouteilles de soda ont été lancées contre ce bâtiment, précise la préfecture des Bouches-du-Rhône. Nous serons sur place. Et puis à partir de 13h30, le général Vincent Breton avec nous. C'est l'un de nos militaires chargés de penser et de préparer les guerres de demain. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton avec une voix.
Bonjour, vous connaissez ma voix. Vous m'avez entendu au cinéma. Eh bien, retrouvez-moi dans le 13-14 de France Inter. Nous passons la semaine ensemble.
La voix d'une grande star américaine du cinéma. Je vous laisse cogiter. 13h50, c'est la France. Les mots de nos régions venus d'Algérie. Ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et puis, juste avant 14h, c'est une chanson. Vincent De Dienne, Anne Sylvestre et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes dans notre pays. À l'âge adulte, 5 400 000 personnes déclarent avoir subi de telles violences avant l'âge de 18 ans et la plupart du temps de la part d'un proche. Nos tribunaux ont donc l'habitude de ce type d'affaires, mais là c'est un procès hors norme qui est en train de s'ouvrir devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, celui de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec. 74 ans, il est accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, la plupart mineurs. Les faits se seraient déroulés dans une douzaine de hôpitaux de l'ouest du pays. Entre 1986 et 2017, les enfants étaient le plus souvent endormis ou en phase de réveil. La cour va notamment se demander comment le Squarnec a pu agir aussi longtemps avant d'être démasqué. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès à Vannes pour Inter. Je l'ai dit, hors norme Jean-Philippe, près de 300 victimes, il va durer plusieurs mois.
Oui, osons d'abord une petite comparaison avec le procès de l'affaire Pellicot, cette présence massive, jusqu'alors exceptionnelle de la presse, 110 médias accrédités ici, dont 40 rédactions étrangères, essentiellement européennes. Procès de la démesure aussi, avec une audience au sein du tribunal dans une salle de petite taille et à 300 mètres de là, une infrastructure spécialement conçue pour accueillir les parties civiles dans un amphithéâtre de 300 places. On ne sait pas encore combien de victimes de Joël Le Squarnec vont venir assister à ce méga procès de 4 mois. Quelques dizaines d'entre elles ont afflué pour l'instant ce midi.
Alors Joël Le Squarnec a déjà été condamné, Jean-Philippe, en 2020 à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 4 enfants, dont 2 de ses nièces. Cela veut dire que l'enjeu du procès est ailleurs ?
Oui, bien sûr. La question principale est de savoir si Joël Le Squarnec, qui est arrivé ici à 11h30, va s'exprimer devant la cour, expliquer comment il en est arrivé là et comment il va répondre aux attentes de ses victimes, dont certaines vivent avec des traumatismes profonds, soit depuis que les faits leur ont été révélés, soit depuis qu'elles les ont subis il y a 10, 20, 30 ou presque 40 ans. Savoir aussi comment Joël Le Squarnec a pu agir ainsi d'hôpital en hôpital sans jamais être découvert, sans jamais être dénoncé par ceux qui ont eu connaissance de ses perversions. Certains cadres hospitaliers ont par exemple su qu'il avait été condamné une première fois en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, mais elles n'ont rien dit, elles n'ont rien fait pour que le cauchemar des victimes s'arrête.
Merci Jean-Philippe Degnaud, envoyé spécial d'Inter à Vannes pour ce procès qui vient donc de s'ouvrir. Là, l'enjeu du procès était d'entendre l'accusé qui disait encore il y a quelques semaines avoir perdu la mémoire. Brahim Aouissaoui, jugé à Paris pour l'attentat terroriste qui avait fait 3 morts dans la basilique de Nice, c'était le 29 octobre 2020. Il a reconnu les faits ce matin à l'audience. Bonjour Sébastien Germain.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Ce Tunisien de 25 ans a non seulement admis son geste, mais il a aussi donné ses motivations.
Effectivement, hein, d'habitude c'est mutique, livrant au compte-gouttes ses secrets. Là, c'est dès le début de l'interrogatoire qu'Aouissaoui passe aux aveux. Je reconnais les faits. Silence sidéré dans la salle. La centaine de personnes présentes se contentent alors de cette petite justification. Tous les jours, vous tuez des musulmans. Ces musulmans qui meurent sont innocents. Un peu plus loin, pendant l'audience, le président Christophe Petitot. Donc, si je récapitule, vous vous êtes dit, c'est injuste, des musulmans meurent. Je vais rétablir la justice. Est-ce que c'est ça qui vous anime? Je vois ça comme étant un droit, une vérité. Mes 3 victimes à Nice n'y étaient pour rien, elles étaient innocentes, comme tous les nouveau-nés, les enfants qui meurent chez nous à cause de vous. Donc, quand vous êtes dans l'église, pour vous, c'est votre droit, vous avez le droit de tuer. Oui, j'exerce un droit. Et Aouissaoui s'énerve pour la première fois depuis le début du procès. C'est comme ça, je vous dis, c'est mon droit, c'est ma justice. Je tue un musulman, alors je te tue. Mais il y a une dame qui a été retrouvée décapitée. Couper la tête, c'est un symbole, un message pour dire qu'il y a une injustice. La décapitation, conclut Aouissaoui, c'est aussi pour faire peur aux gens. Des aveux donc terribles à entendre pour les familles des victimes, elles attendaient ce moment depuis plus 4 ans, pas de pleurs, juste du silence pour sortir comme on peut de cette audience.
Merci Sébastien Germain. Ici Azur pour ce compte-rendu d'audience. Le procès doit s'achever après-demain. Dans l'affaire Betaram, du nom de cet établissement catholique du Béarn qui est l'objet d'accusations de violences sexuelles, une plainte a été déposée vendredi dans les Landes, une plainte qui vise le Premier ministre François Bayrou. Le procureur de Pau précise que cette plainte est en train d'être enregistré par son parquet. Des témoins accusent l'actuel Premier ministre d'avoir été au courant de ces accusations de violences sexuelles sans avoir agi il y a plusieurs années. À Mulhouse, un rassemblement est organisé ce soir en mémoire de Lino de Souza Loureiro. Cet homme de 69 ans tué lors de l'attaque au couteau sur un marché de la ville, c'était samedi après-midi. Le principal suspect algérien en situation irrégulière était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, refusé à 10 reprises par l'Algérie, selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cet homme est toujours actuellement en garde à vue. Les proches de la victime, eux, vont donc se souvenir aujourd'hui, et notamment à l'association des Portugais de la région de Mulhouse, où s'est rendu notre journaliste, Jules Hauss.
Depuis l'annonce du drame, samedi, la télé est allumée en permanence dans le local de l'association. La veille de l'attaque, Lino était encore là, autour de la table de billard.
Il était là en train de jouer, il venait faire une partie avec On jouait avec les jeux de mots et tout.
Et Roger, la soixantaine, comme lui, le chambrait, comme d'habitude.
J'étais en train de devenir un bon joueur, mais question de rigolade.
Juste à côté de la table, les écharpes des 3 plus grands clubs de foot portugais sont accrochées. Lino, footballeur, lui aussi, était fan du FC Porto, sa ville d'origine, et celle de son ami de 35 ans, Armindo Mendes.
On vient de Porto, on a le même club, on est tous atterrés parce qu'on se dit c'est pas possible, il n'a pas pu être mêlé à quelque chose. Pour nous, c'est très dur.
Lino allait au marché plusieurs fois par semaine et c'est justement après ses achats qu'il venait à l'association, notamment pour filer un coup de main.
S'occuper du bar quand il y avait besoin, servir une bière, servir un café, donner un coup de main quand il y avait une fête de fin d'année. Voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué, oui.
L'association a prévu de lui rendre hommage ce soir lors du moment de recueillement organisé place de la Réunion.
Reportage ici Alsace. La mairie de Mulhouse a ouvert ce matin une cellule psychologique pour les personnes qui étaient présentes au marché samedi après-midi. Lui est sous les verrous, mais les verrous roumains pour le moment, en attendant son extradition vers la France sous 1 mois. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté en Roumanie samedi, 9 mois après son évasion durant laquelle 2 agents pénitentiaires avaient été tués. Les enquêteurs veulent maintenant mettre la main sur les complices de son évasion et de sa cavale. Ils ont procédé ce week-end à de nombreuses interpellations en France. Emmanuel Leclerc, on vous retrouve, vous suivez avec Ariane Grissel cette vaste enquête et une quinzaine d'interpellations d'interpellations à nouveau ce matin.
Oui, une source policière proche de l'enquête au départ nous rappelait ce matin qu'au total, une trentaine de personnes avaient été identifiées dans différents cercles autour de Mohamed Amra assez rapidement dans les semaines qui ont suivi, familiales, amis d'enfance et trafiquants de drogue, avec 24 interpellations et gardes à vue en France désormais et plusieurs arrestations à l'étranger dans cette affaire. On s'en approche et parmi ces suspects, des personnes qui ont effectivement directement aidé le fugitif, des membres du commando qui l'ont fait évader au péage d'Incarville en mai dernier et ensuite qui l'ont aidé dans sa cavale jusqu'à aller en Roumanie avec lui début février. Mais il y a aussi des suspects qui peuvent l'avoir aidé depuis leur prison. 4 détenus ont été extraits de leur cellule ce matin pour être placés en garde à vue. On sait que les enquêteurs ont surveillé de près un détenu au Beaumet à Marseille, considéré comme le mentor de Mohamed Amra. Il y avait aussi un personnage important repéré en Espagne et il y a eu justement une interpellation par la Guardia Civil ce week-end. Autre interpellation à l'étranger, 2 hommes au Maroc, des soutiens présumés qui pendant des mois ont montré qu'ils savaient sécuriser leur communication, messagerie cryptée systématique, VPN, des pare-feux informatiques. Certains passaient même par une messagerie cryptée arménienne, Zanji, mais visiblement, il y a eu des erreurs qui ont donc permis de géolocaliser Mohamed Amra à Bucarest, en Roumanie.
Merci Emmanuel Leclerc, et la procureure de Paris donnera sur cette affaire une conférence de presse ce soir à partir de 18h. Et puis là, c'est l'argent des trafics qui est au cœur du procès à Marseille, le procès d'un réseau international de blanchiment lié à la bande criminelle corse du Petit Bar. Ce procès s'est ouvert ce matin. Ce clan est accusé d'avoir lavé des dizaines de millions d'euros d'argent sale via Hong Kong, Singapour, le Luxembourg ou encore la Suisse.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Après 3 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, la paix va-t-elle s'écrire à 4 mains, celle des présidents russes et américains, Vladimir Poutine et Donald Trump? C'est le scénario privilégié par les deux pays. Trump a même annoncé une rencontre avec Poutine probablement d'ici quelques jours. En attendant, les Européens font tout pour s'inviter eux aussi à la table des négociations. Emmanuel Macron le répétera ce soir à Donald Trump en tête-à-tête, déjeuner à la Maison-Blanche entre les deux présidents. Tout cela alors que de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens sont à Kiev depuis quelques heures. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez cette visite pour Inter en Ukraine. Je vous donne la parole Agathe dans un instant. D'abord, l'illustration de ce rapprochement russo-américain, c'est le volet économique. Explication de notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Les Russes savent manifestement comment parler à Donald Trump. Mardi dernier, dans l'ombre des discussions de Riyad entre Russes et Américains, il y avait un homme, Kirill Dmitriev, tout particulièrement chargé du volet économique côté russe. Le directeur du fonds souverain de l'État russe était venu avec un message et un chiffre.
What we want is good dialogue. Actually, it's US businesses who lost $300 billion.
Nous voulons un bon dialogue avec les entreprises américaines qui ont perdu 300 milliards de dollars en quittant la Russie. Le chiffre est invérifiable, mais à Moscou, on n'hésite plus à parler du retour des entreprises occidentales. Kirill Dmitriev estime que les compagnies pétrolières américaines pourraient même revenir en Russie d'ici 2 ou 3 mois. Mais la Russie se sent en position de force, comme l'exprime le ministre de l'économie, Denis Manturov.
S'ils sont prêts à revenir, nous sommes prêts à l'envisager. Nous examinerons le retour de ceux qui ont fui avec autant de soin qu'ils l'ont fait en 2022. Nous examinerons chacun individuellement et avec ceux qui nous seront bénéfiques.
Le retour des entreprises occidentales ne pourra se faire néanmoins que si les sanctions sont levées, un point que Moscou compte probablement mettre sur la table lors des futures discussions. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
À Moscou d'ailleurs, la condamnation à 3 ans de prison du français Laurent Vinatier pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger dans le pays. Cette condamnation a été confirmée ce matin en appel et Paris dénonce à l'instant une condamnation arbitraire. On retourne donc en Ukraine. Agathe Mahué, vous êtes à Kiev. On voit bien, Agathe, que les Ukrainiens et les Européens craignent maintenant d'être mis au pied du mur.
Oui, et c'est toute l'urgence de ce mini-sommet qui a d'ailleurs débuté au moment où retentissait tout à l'heure une énième alerte aérienne, la menace de bombardement russe. L'Europe annonce donc de nouvelles sanctions économiques contre Moscou et en parallèle une nouvelle aide à l'Ukraine, 3,5 milliards d'euros. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le dit ici ce midi, la capitulation de l'Ukraine reste l'objectif de Vladimir Poutine qui veut conclure un accord de paix en ne s'adressant qu'aux États-Unis. États-Unis, d'où ce message réitéré par Volodymyr Zelensky à ses alliés européens.
L'Ukraine doit être à la table des négociations avec l'Europe, car la cible stratégique de la Russie, c'est l'Europe et le mode de vie européen. Par conséquent, sa sécurité et le destin de l'Europe ne peuvent être déterminés sans l'Europe. L'Ukraine, l'Europe et les États-Unis doivent être ensemble à la table des négociations contre la Russie pour que ce besoin de paix ne soit pas éclipsé par de simples promesses de stabilisation, de nouveaux départs et de réconciliation.
Et pour réaffirmer leur engagement en faveur de l'Ukraine, les dirigeants européens se relaient. La France est représentée par son ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, avec des messages d'unité pour tenter de faire face à la nouvelle rhétorique pro-Moscou de Donald Trump.
Agathe Mahué à Kiev pour Inter. Les Allemands redoutent carrément de ne plus être sous la protection américaine. Des Allemands qui, contrairement aux Français ou aux Britanniques, ne disposent pas de l'arme nucléaire et sont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'OTAN, sous le bouclier américain. Mais l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche change tout, d'où les mots très forts du futur chancelier allemand Friedrich Merz, arrivé en tête des élections hier et qui va devoir bâtir une coalition pour former le gouvernement. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin pour Inter. L'Europe doit se renforcer jusqu'à son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Voilà ce qu'a dit Merz hier soir. C'est un tournant.
Et oui, Emmanuel Macron a peut-être bien trouvé un partenaire. Son idée d'autonomie stratégique européenne n'avait jusqu'ici pas soulevé l'enthousiasme à Berlin. Mais l'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz, associé au coup de boutoir de Donald Trump contre le lien transatlantique, pourrait singulièrement changer la donne. Le renforcement de la défense européenne est une priorité de longue date du chef de file des conservateurs, qui diagnostiquait fin janvier une rupture d'époque et appelait les Européens à prendre leur sécurité en main. Le discours de J.D. Vance à Munich il y a 10 jours a encore accéléré la prise de conscience, comme une seconde Zeitenwende, ce tournant historique engagé par Olaf Scholz au commencement de la guerre en Ukraine. 100 milliards d'euros sur la table pour financer la défense allemande. Face au désengagement américain, Friedrich Merz veut passer à la vitesse supérieure. Ses deux premiers déplacements à l'étranger seront d'ailleurs pour Paris et Varsovie, principales armées de l'UE. Mais serrer les rangs entre Européens à un prix, le frein à l'endettement, règle constitutionnelle allemande, doit-il être sacrifié? Friedrich Merz n'y semble pas encore tout à fait prêt.
Victoire des conservateurs donc en Allemagne hier, mais sans majorité absolue. Il faut donc réaliser et construire une coalition. Ce sera sans le parti d'extrême droite et pro-russe AfD, mais dont la percée interpelle avec ce score record de près de 20% des suffrages. Et quand on regarde la carte électorale, on s'aperçoit de ce résultat étonnant. L'AfD a réalisé ses meilleurs scores dans les régions de l'ex-RDA, l'Allemagne de l'Est, un tiers de l'électorat, 35% dans cette ex-Allemagne de l'Est, hors Berlin, a voté pour le parti AfD. L'éclairage d'Hans Stark, il est professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université.
Ce sont des régions qui, en dépit de tous les progrès économiques qui ont été réalisés depuis l'unification, sont toujours un peu déconnectées par rapport à la croissance économique allemande. Et peu de grandes industries se sont implantées en Allemagne de l'Est. Le taux de chômage est un peu plus élevé aussi. Et le niveau de vie reste inférieur à la moyenne en général en Allemagne. À cela s'ajoute un nationalisme exacerbé qui se fait sentir en fait depuis le tout début des années 1990, quand il y a eu des attaques contre les foyers d'immigration. Et enfin, un parti pris pro-russe massif, et les Allemands de l'Est ne sont pas du tout d'accord avec l'interruption des relations énergétiques et commerciales entre l'Allemagne et la Russie à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. Les Allemands de l'Est ne soutiennent pas l'Ukraine, ils sont derrière Poutine.
Hans Stark, conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, au téléphone de Virginie Pironon. Je reviens un instant à la guerre en Ukraine, anniversaire des 3 ans aujourd'hui, et à ses conséquences en France. Nous sommes à Marseille avec vous. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour Jérôme.
Alerte ce matin sur le consulat russe de la ville. Des détonations ont été entendues, les démineurs sont intervenus, mais il s'agirait en fait de bouteilles de soda.
Oui, peu après 7h30 ce matin, 3 bouteilles de soda en plastique de 50 centilitres ont été lancées dans les jardins du consulat de Russie, dans le 8e arrondissement de Marseille. Et 2 de ces bouteilles ont éclaté, provoquant des détonations, indique la préfecture de police. Il n'y a pas eu de dégâts ou de blessés, mais les démineurs sont intervenus pendant plusieurs heures avec un robot sur chenille pour écarter tout danger. La rue où se trouve le consulat a été bouclée. Les opérations de déminage sont maintenant terminées, mais on ignore encore à ce stade ce qu'il y avait à l'intérieur de ces bouteilles de soda. Des analyses sont en cours sur les résidus de produits qu'elles contenaient. La police judiciaire est chargée de l'enquête, une enquête ouverte par le parquet de Marseille pour dégradation par substance explosive ou incendiaire.
Mathilde Vinceneux en direct de Marseille. La diplomatie française condamne, je cite, une attaque contre ce consulat général de Russie quand le ministère russe, lui, dénonce une attaque terroriste, ce qui n'est donc pas la piste suivie, on l'a compris pour l'instant, par les autorités françaises. Cet anniversaire des 3 ans de l'invasion russe est donc particulièrement douloureuse pour les Ukrainiens qui sont installés en France. Ils représentent désormais la première nationalité parmi les demandeurs d'asile et parmi ceux-là, ceux qui sont arrivés juste après le début de la guerre. Cette famille, par exemple, rencontrée à Laval, en Mayenne, par Mamouen Bordron.
Maya est arrivée en Mayenne avec ses parents en mars 2022.
J'étais au collège, j'étais en quatrième. C'était très difficile d'apprendre le français.
3 ans après son arrivée à Laval, l'adolescente de 16 ans a un très bon niveau de français. Ses parents, eux, ont plus de mal avec la langue, mais ça n'a pas empêché son père de trouver du travail à Port-Brier.
Il fait des fenêtres. C'est tout ce que je sais.
Sa mère, Emilia, était couturière en Ukraine, mais comme elle ne parle pas français, elle n'a pas trouvé d'emploi en Mayenne. Malgré ses difficultés, la famille souhaite rester en France.
On ne sait pas quand la guerre va finir.
Sa fille, Maya, fait la traduction.
Et on ne sait pas quand ce serait mieux pour vivre en Ukraine. Elle préfère pour son enfant rester en France pour la sécurité.
La grand-mère Svetlana, elle aussi, a fui la guerre à Kharkiv, c'était il y a 2 mois. Cette Ukrainienne de 65 ans a décidé de rejoindre à Laval sa fille, son gendre et sa petite-fille.
Elle a dit que maintenant, là-bas, c'est plus dangereux. Et du coup, on a décidé avec nos familles qu'elle est venue ici et qu'elle habite avec nous. C'est mieux pour elle, c'est mieux pour nous.
Svetlana a les larmes aux yeux. Son cœur est en Ukraine, traduit sa petite fille.
Reportage ici Mayenne. Le 11e jour d'hospitalisation pour le pape François à Rome, qui souffre d'une double pneumonie, qui a passé une bonne nuit, nous dit ce matin le Vatican, et qui se repose. Le pape François, ajoute le Vatican, est en mesure de se lever et de se nourrir normalement. L'actualité internationale, qui est évidemment très suivie en ce moment, au salon de l'agriculture française exportatrice, la filière vin notamment, suivra avec grande attention ce soir la rencontre Emmanuel Macron-Donald Trump. Le Premier ministre François Bayrou, lui, est au salon aujourd'hui. Ses visites sur le terrain sont plutôt rares depuis sa nomination, mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte le terrain qui vient à lui. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour à tous.
Vous suivez la visite du Premier ministre porte de Versailles qui joue la carte de la proximité.
Oui, devant les objectifs des photographes, François Bayrou caresse Oupette, la vache limousine égérie du salon.
Ne croyez pas que ce soit la première fois que je touche une vache.
Le Premier ministre joue de son image, fils d'un éleveur laitier, et il demande à voir des vaches de sa région.
Mais il n'y a pas de béarnaise cette année.
Non, pas cette année, il n'y en a pas.
Mais les agriculteurs qu'il croise lui rappellent aussi la crise du monde paysan.
On a besoin d'un soutien.
Plus tôt et à huis clos, le Premier ministre s'est entretenu avec les représentants des organisations agricoles après l'adoption attendue de la loi agricole au Parlement jeudi dernier.
Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, on en est loin. On a à résoudre les problèmes des prix, du revenu, qui est le problème le plus important.
Une journée dans les allées du salon, loin du scandale Notre-Dame de Bétarame, préférerait François Bayrou, qui refuse de répondre à une question sur le sujet.
Franchement, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire ? Je ne participe pas au scandale.
Le Premier ministre qui déjeune avec des étudiants en filière agricole avant de poursuivre cet après-midi sa visite.
Timur Özturk en direct du Salon de l'Agriculture avec les moyens techniques de Christophe Papon. Salarié agricole, voilà un métier qui est considéré comme un métier en tension. Le ministère du Travail vient de mettre à jour la liste des métiers qui ont du mal à recruter dans notre pays, région par région. L'enjeu, c'est de savoir dans quelle profession, par exemple, les employeurs pourront demander la régularisation de leurs travailleurs sans papier. Bonjour François Breton.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes procuré ces listes. Principales concernées, l'hôtellerie, restauration qui est plutôt satisfaite.
Oui, la profession salue une victoire, hein, puisque les professions de l'hôtellerie restauration ne figuraient sur quasiment aucune liste dans la précédente version de 2021. Seule la Normandie cherchait des chefs cuisiniers, alors qu'il manque, selon l'UMI, principal syndicat du secteur, environ 200 000 travailleurs. Désormais, les métiers de cuisinier, d'employé d'hôtellerie seront considérés comme en tension sur tout le territoire. Et ça rassure Franck Chomès, le patron de la branche restauration de l'UMI.
Les gens qui sont déjà dans nos établissements, en fin de visa, pourront renouveler leur séjour, leur droit de travailler. Donc, c'est déjà une bonne chose, parce que la crainte qu'on avait, c'est qu'il y ait des contrôles. Et comme ils arrivent en fin de régularisation, quittent nos établissements.
Parmi les autres métiers recherchés partout en France, on trouve aussi les aides à domicile, les aides ménagères, et vous le disiez donc, de nombreux métiers dans le monde de l'agriculture.
Est-ce que ça veut dire que davantage de sans-papiers vont être régularisés dans ces métiers ?
Eh bien, la CGT en doute. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a demandé récemment au préfet de recentrer les régularisations exceptionnelles par le travail sur les métiers en tension. Sauf que certains de ces métiers sont assez inaccessibles, déplore Gérard G, en charge du dossier à la CGT.
Tout ce qui est ingénieur, hein, par exemple ingénieur du bâtiment, les ingénieurs géomètres, ça peut permettre de faire venir des salariés hors Union européenne sans avoir à demander d'autorisation de travail. Néanmoins, pour ce qui est des salariés qui sont ici, qui pourraient être régularisés, la liste est quand même fort incomplète.
Et par exemple, commis de cuisine en Île-de-France et cariste dans 8 régions sont absents des listes. Pourtant, selon Gérard Ray, ces emplois sont souvent occupés aujourd'hui par des travailleurs sans papier.
Merci François Breton pour ces informations. C'est un rétro-pédalage en règle. Samedi soir, le président de l'Olympique de Marseille, l'Espagnol Pablo Longoria, quitté Auxerre dépité et furieux après la défaite de l'OM 3-0 face à la JO Auxerre, dénonçant un arbitrage honteux et scandaleux et avançant l'idée qu'il y avait de la vraie corruption, c'est l'expression qu'il a employée samedi soir, de la vraie corruption au sein du football français. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Eh bien ce matin, Pablo Longoria fait machine arrière et il s'explique dans une interview accordée à l'AFP.
Et Pablo Longoria sait qu'il a dépassé les limites du raisonnable et aujourd'hui il rétropédale pour tenter peut-être d'alléger la probable future et lourde sanction qu'il va recevoir de la commission de discipline de la Ligue. Mais le mal est fait. Alors oui, aujourd'hui il regrette. Il regrette d'avoir utilisé le mot de corruption. Il n'y en a pas, dit-il, dans le foot français. Pablo Longoria est d'origine espagnole et pour se défendre, il précise aussi que dans sa langue natale, le mot corruption a un sens plus large. Et de poursuivre, je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières. Le président de l'OM n'est pas très fier de lui non plus. Je ne peux pas accepter de donner ce type d'image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même. Parallèlement, il justifie son accès de colère par le fait que beaucoup de décisions arbitrales ont défavorisé l'OM ces derniers temps. C'est pourquoi il tient à dire en conclusion qu'il y a des choses sous-entendues dans l'arbitrage qui, je cite, ne sont pas claires et qu'il faut améliorer pour éviter la confusion.
Merci Fabrice Abgral. Le syndicat des arbitres de foot d'élite lui confirme que les arbitres vont bien déposer plainte aujourd'hui pour diffamation contre le dirigeant de l'OM. Et puis toujours dans la série des déclarations des sportifs, peut-on être pilote et dire des grossièretés ? C'est non pour la Fédération Internationale de l'Automobile qui déjà inflige des amendes aux pilotes, les pilotes de rallye qui s'indignent aujourd'hui dans un communiqué contre les amendes exorbitantes qui leur sont infligées. Il faut dire que la semaine dernière, le Français Adrien Fourmeau, pilote de rallye, avait écopé d'une amende de 10 000 euros pour avoir dit à la télévision dans une interview après une manche de rallye « On a merdé ». C'était juste après une sortie de route. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, 3 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Toutes vos questions sur l'aspect militaire. Avons-nous les moyens d'intervenir directement en Ukraine ? L'Ukraine peut-elle tenir sans les États-Unis ? Vous ajoutez vos questions pour le général Vincent Breton, directeur du Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation. Il est avec nous, je vous rappelle le téléphone 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec les voix françaises des stars du cinéma américain. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Notre linguiste Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, les mots de nos régions ont parfois des racines de l'autre côté de la Méditerranée.
Si je vous dis créponné ou encore j'ai la main gonfle, ça vous étonne ? Ces expressions d'Algérie rappellent le français du Midi. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans leur histoire.
Et avec vous Frédéric, un comédien.
Vincent De Dienne, que l'on peut voir en ce moment sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris. Avec lui, nous écouterons Sa chanteuse préférée, Anne Sylvestre, elle était également une amie. Et il nous racontera notamment leur rencontre dans un café du 20e arrondissement de Paris.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
On en parle.
Alors que les Français ne savent plus vers quelle motorisation se tourner, Volkswagen lance la gamme e-hybride. On en parle avec Antoine Gaston-Breton, directeur marketing France de Volkswagen. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est quoi l'e-hybride ?
Eh bien c'est avant tout une nouvelle technologie qui vous permet de ne plus avoir à choisir entre thermique ou électrique.
Ah bon, c'est-à-dire ?
L'e-hybride de chez Volkswagen offre une autonomie en 100% électrique de plus de 140 km sur la Golf par exemple. Au-delà des chiffres, vous profitez de l'électrique au quotidien. Économie, silence et plaisir de conduite. En plus, avec sa recharge rapide, vous passez de 10 à 80% en moins de 30 minutes.
Très bien, mais pour les longues distances ?
Eh bien, la motorisation essence associée est tellement efficace que l'autonomie cumulée est impressionnante et peut dépasser les 980 km sur une Passat, dont 130 en électrique. Ouais. Finalement, vous avez deux véhicules en un pour répondre à tous vos besoins et le choix entre Golf, Tiguan et Passat qui en sont déjà équipés.
Antoine Gaston-Breton, merci.
On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire du spectacle de Thiago Rodriguez, Antoine et Cléopâtre au Théâtre de la Bastille du 27 février au 14 mars. Thiago Rodriguez s'empare très librement de l'histoire d'amour tragique d'Antoine et Cléopâtre. Il met en scène un duo de chorégraphes, Sofia Dias et Victor Oriz, et offre un chant magnétique, envoûtant et poétique. Antoine et Cléopâtre au Théâtre de la Bastille, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
De la pluie aujourd'hui sur le nord-ouest.
Oui, une perturbation pluvieuse est arrivée sur la Bretagne et la Normandie durant la nuit et s'enfonce de plus en plus sur le pays. Cet après-midi, les pluies vont s'étendre des pays de la Loire et du Poitou au bassin parisien jusqu'aux Ardennes et à l'est des Hauts-de-France. La Bretagne, la Normandie, la Somme et le Pas-de-Calais passeront à l'arrière de cette perturbation et retrouveront des éclaircies parfois assez belles, mais aussi contrariées par des averses par moments. Les nuages, eux, vont se propager jusqu'au quart nord-est, au Limousin et au nord-aquitain avant l'arrivée de la pluie en fin de journée ou en soirée. Autour de la Méditerranée, les entrées maritimes vont continuer de s'accumuler. Elles maintiendront un ciel assez chargé avec quelques averses sur la Corse. Et puis l'après-midi sera quand même plus lumineux des Landes et des Pyrénées jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, malgré un soleil parfois bien atténué par des nuages élevés. Les températures maximales baissent par rapport à hier. Elles restent nettement au-dessus des normales de saison. 12 à 17 degrés en général avec 13 degrés pour Paris, Brest et Strasbourg. Dans le sud-ouest, on attend 15 à 21 degrés.
Ouais, c'est extrêmement doux. Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Vincent Breton.
Bonjour Jérôme Cadet.
Merci d'être avec nous. Vous êtes général de division aérienne, vous êtes issu de l'armée de l'air, c'est là que vous avez fait votre carrière, mais vous dirigez aujourd'hui le centre interarmée de concepts, de doctrine et d'expérimentation à l'école militaire. Pour le dire simplement, vous étudiez les conflits en cours sur la carte du monde, et notamment celui qui se déroule en Ukraine depuis 3 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est de cela dont nous allons parler ensemble dans les minutes qui viennent, avec les auditeurs d'Inter qui nous appellent 01 45 24 7000 et qui passent également via l'application France Inter. Vincent Breton, en un mot, qu'est-ce que le centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation ? Vous étudiez les guerres en cours, vous étudiez ce que seront les guerres de demain pour que nos militaires s'y préparent ?
Alors, effectivement, le centre interarmé de concepts, doctrine et expérimentation est installé à l'école militaire. Donc, c'est un centre de réflexion stratégique qui est constitué d'une quarantaine de personnes, des officiers des 3 armées, terre, air, mer, et puis également des personnels civils. Et notre devise, c'est penser les guerres d'aujourd'hui et de demain. Donc, on fait effectivement de la prospective et puis également, on tire les leçons des conflits en cours et notamment de la guerre en Ukraine qui m'amène aujourd'hui chez vous.
Vous êtes 40. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près de combien sont les Américains pour faire la même chose, pour réfléchir à ce qui se passe en ce moment et à ce que peut être la suite pour avoir une comparaison des moyens ?
Alors, effectivement, bah, oui, les Américains sont plus nombreux. Alors, c'est difficile de comparer, entre partenaires parce qu'on n'a jamais les mêmes périmètres de responsabilité. L'équivalent américain du CICDE, qui est ce qu'on appelle le J7 du Pentagone, ouais. Je crois qu'ils sont à peu près 1300 ou 1400. Mais
on a et vous, des, 40.
Voilà, bon. Mais on a des échanges réguliers avec eux et ils sont toujours surpris par notre capacité de synthèse et d'analyse et la pertinence de nos analyses. Quelquefois, eux, ils se perdent dans les détails à être si nombreux. Donc, vous voyez, c'est pas forcément, c'est pas forcément un défaut d'être peu nombreux.
Le nombre ne fait pas tout. Est-ce que c'est l'un des enseignements aussi de cette guerre en Ukraine? Depuis 3 ans, les Ukrainiens sont moins nombreux que les Russes. Ils reculent, mais ils tiennent.
Le nombre ne fait pas tout, mais c'est quand même important. Ouais. Hein, cette guerre permet de renouer avec l'importance que constitue ce qu'on appelle la masse, c'est-à-dire le volume, le nombre de forces. Et on voit quand même que c'est important d'avoir suffisamment d'avions, de bateaux, de chars, de véhicules blindés, de soldats sur le terrain. Donc, de drones aussi. On pourra peut-être parler de l'importance que revêtent les drones sur ce champ de bataille. Mais voilà, le nombre fait quand même bien les choses.
Quand on étudie les conflits, il y a toujours des continuités dans l'histoire militaire. Là, c'en est une. Régulièrement dans l'histoire militaire, un pays, une force moins importante, a priori, tient tête à une autre. C'est le cas aussi, hein. Si on se replonge il y a 3 ans, parce que c'est, on l'a un peu oublié, mais il y a 3 ans, très peu de spécialistes militaires donnaient une chance, la moindre chance à l'Ukraine.
Oui, alors, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. On est tous surpris par la durée et puis par l'intensité de cette guerre. Petite digression quand même, avant de détailler un peu plus ma réponse.
Ouais.
La guerre d'agression de la Russie envers l'Ukraine, en fait, a commencé il y a plus de 10 ans. Avec l'annexion sournoise de la Crimée et de certains territoires du Donbass. Et aujourd'hui, effectivement, marque le 3e anniversaire de ce qu'on appelle l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire une guerre de haute intensité par laquelle la Russie cherche à s'emparer de toute l'Ukraine. Donc l'objectif...
Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 18% à peu près du territoire ukrainien qui est contrôlé par
l'armée russe? C'est ça, oui. C'est assez ridicule pour l'armée qui se prétend être la deuxième du monde.
Ridicule?
Oui, je trouve, oui, puisque 18%, ça inclut la Crimée et puis les territoires qui ont été annexés en 2014. Donc, si on regarde, par exemple, en 2024, la quantité de territoires qui ont été grignotés par les Russes en Ukraine, c'est 5000 km². 5000 km², c'est la superficie du département de l'Ariège. Donc, c'est quand même pas grand-chose, encore une fois, pour celle qui se prétend la deuxième armée du monde. Et ces modestes gains territoriaux se font au prix de sacrifices de nombreuses vies humaines russes.
Ça veut dire quoi, nombreuses vies humaines? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que l'armée française essaye d'estimer le nombre de soldats russes tués depuis le début des combats?
Alors, ce qui est important, c'est effectivement qu'il n'y a aucun chiffre officiel crédible sur le volume de pertes. Des deux côtés, c'est probablement le secret le mieux gardé.
Tout le monde ment.
Oui, parce que ça aurait forcément un impact considérable, ouais, sur le moral des combattants sur le front. Néanmoins, il y a pas mal de centres de recherche internationaux qui publient régulièrement des estimations qui sont assez crédibles, basées sur des études bien documentées. Et leurs estimations sont effectivement assez terrifiantes. Donc,
on a une idée du rapport. Est-ce que c'est 1 pour 1? Est-ce que c'est 1 pour 2?
Non, les pertes russes seraient à peu près une fois et demie supérieures à celles des Ukrainiens. Celui qui a l'offensive, en général, perd plus de force. C'est plus difficile d'attaquer que de se défendre. Ça nécessite beaucoup plus de force. Le nombre de militaires russes qui ont perdu la vie depuis février 2022, pardon, serait compris entre 138 000 et 200 000, et avec 3 à 4 fois plus de blessés. Donc au bilan, on a un chiffre d'environ 600 000 militaires russes qui morts, blessés gravement, avec des séquelles pour le restant de leur jour. C'est un chiffre qui semble faire consensus. Voilà. Donc ça représente plus que la population de la ville de Lyon.
On va parler du soutien de la population ukrainienne à ses troupes dans un instant, mais le soutien de la population russe à ses troupes, est-ce qu'on peut le mesurer? Entre 138 000 et 200 000 morts, ça paraît considérable. Malgré tout, et même si ce pays est dirigé d'une main de fer par Vladimir Poutine, on a le sentiment qu'il y a peut-être un soutien, en tout cas qu'il n'y a pas de révolte contre ce conflit.
Oui, la population russe a l'habitude de vivre sous le joug d'un État qui est, qui effectivement qui ne laisse pas place à la contestation. Donc je pense que les gens taisent leurs différends. Ils expriment effectivement un mécontentement qu'ils gardent pour eux.
Ouais.
Mais effectivement, on voit pas de révolution se dessiner en Russie, clairement.
Même s'il y a eu ces vagues de départ, hein, il y a oui. Au début du conflit, des Russes qui en avaient les moyens ont quitté le pays pour échapper au conflit. Côté ukrainien, rupture et continuité toujours dans ces conflits. Vous en disiez un mot, Vincent Breton, il y a une minute. La rupture, c'est peut-être l'utilisation des drones. Et à quel point finalement les civils ukrainiens s'en sont emparés en soutien des militaires ?
Effectivement, une des tendances qu'on voit se dessiner à travers cette guerre, c'est le nivellement technologique. Et l'importance que revêtent les technologies grand public, facilement accessibles, peu coûteuses, pour produire des équipements militaires très, très sophistiqués et à bas coût. Et effectivement...
Et concrètement, ça donne quoi dans la réalité ?
L'usage des drones est effectivement massif. Alors, on parle de mini et de micro-drones, c'est-à-dire des drones de moins de 25 kilos, pour des usages très divers, donc pour de l'observation du champ de bataille, pour également de l'usage offensif. Donc il y a effectivement, par exemple, beaucoup de drones kamikazes.
Drones que moi, je pourrais fabriquer, par exemple, dans ma chambre ou dans mon garage.
Alors ces drones kamikazes, effectivement, sont fabriqués par un écosystème d'à peu près 1000-1500 startups en Ukraine, fabriqués à partir de composants achetés sur Amazon ou sur AliExpress. Ce sont des drones qui, unitairement, coûtent entre 500 et 3000 euros pièce, et qui sont équipés de charges militaires, hein, pour les drones kamikazes, et donc qui sont capables de détruire quelquefois des équipements militaires qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros.
Ça, c'est de l'économie de guerre, c'est des Ukrainiens qui ne faisaient pas ça il y a 3 ans.
Alors effectivement, au départ, les Ukrainiens ont développé cet usage massif des drones kamikazes pour pallier le manque de munitions d'artillerie.
Ouais.
Et donc, en développant ces capacités-là, ils se sont rendus compte, finalement, ils arrivaient à des résultats tout à fait très satisfaisants. Et aujourd'hui, à peu près 75% des véhicules militaires russes qui sont détruits sur le champ de bataille sont détruits par ce type de drones. Les Ukrainiens ne sont pas seuls, hein, du côté russe également. Il y a une véritable dynamique sur le développement des drones.
On estime... Oui, mais pas de la même façon peut-être. On n'a pas des ateliers comme ça qui se sont créés, des start-up. C'est plus une industrie traditionnelle ?
Du côté russe, c'est plus centralisé.
D'accord.
Du côté ukrainien, c'est beaucoup plus décentralisé. 1,4 million de drones livrés aux forces armées ukrainiennes en 2024.
On a beaucoup de questions pour vous, général Vincent Breton. Nous accueillons Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Lyon-la-Forêt, comment est-ce qu'on prononce ?
Lyon-la-Forêt.
C'est juste à côté de Rouen.
C'est ça.
Nous vous écoutons.
Ben, écoutez, voilà, ma question, je vais, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais la prendre à l'envers. On parle de pause à l'heure actuelle possible au niveau de l'affrontement.
Uh-huh.
Je pense que pour moi, le fait de laisser Poutine tranquille pendant quelques mois ou années, il va reconstituer ses forces.
Uh-huh.
Donc ma question était la suivante, après ce préambule,
uh-huh.
Est-ce qu'il ne serait pas notre intérêt, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Pologne, éventuellement avec l'Angleterre,
uh-huh.
de mettre, comme on dit, pour dire vulgairement, le paquet pour aider l'Ukraine de manière à ce qu'il y ait une offensive immédiatement.
Merci pour
toutes les forces, de manière à bousculer les Russes.
Merci pour cette question directe. Le général Vincent Breton vous répond.
Mettre le paquet, alors je pense qu'on fait... on met déjà le paquet. L'appui militaire offert par les Occidentaux est absolument décisif, hein, du côté ukrainien. Hein. Une des grandes tendances de fond qu'on voit se dessiner dans cette guerre, c'est l'importance de ce qu'on appelle la profondeur stratégique, c'est-à-dire la capacité à durer. La capacité à durer dans des guerres longues. Et donc aujourd'hui, la profondeur stratégique ukrainienne, elle repose principalement sur l'aide absolument décisive des Occidentaux. Et notamment des Européens. Et donc on fait déjà beaucoup de choses. On pourrait toujours faire beaucoup mieux, certes, mais on livre déjà beaucoup d'équipements. Pour la France, par exemple, hein, on a formé depuis le début de cette guerre à peu près 17 600 militaires ukrainiens en France et en Pologne. Et puis, on a livré également de nombreuses munitions de tout type. et puis également un certain nombre d'équipements de pointe, par exemple des canons d'artillerie, des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne, et puis maintenant même des avions de chasse, un Mirage 2005, ou encore des missiles de croisière très, très performants.
Dans cette aide occidentale, Vincent Breton, il y a évidemment l'aide américaine. Si elle s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus du tout d'armement américain qui arrive en Ukraine?
Si elle s'arrête, ce sera problématique, puisque forcément une proportion significative des armements aujourd'hui livrés aux Ukrainiens provient des États-Unis, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas plus de 50%.
Mais est-ce que l'Ukraine pourrait tenir avec le seul soutien des Européens?
Ça serait difficile.
On voit qu'en ce moment, Elon Musk, qui est propriétaire du réseau de satellites Starlink, met ce soutien dans la balance pour contraindre les Ukrainiens à négocier. C'est une menace qui a été agitée. Par exemple, sans les satellites de Musk, est-ce que les Ukrainiens peuvent tenir? Est-ce que nous, on peut leur apporter un soutien en la matière?
Alors effectivement, Starlink joue un rôle considérable pour le système de diffusion des ordres militaires sur le champ de bataille ukrainien. Les Ukrainiens utilisent Starlink, mais également d'autres opérateurs de satellites en orbite basse. Par exemple, l'opérateur OneWeb, qui est un opérateur européen, d'origine britannique, qui a été racheté d'ailleurs par une entreprise française qui s'appelle Eutelsat. Ils utilisent également beaucoup le GSM. Mais effectivement, Starlink joue un rôle considérable. Sans Starlink, ce serait difficile.
Il y a des discussions en ce moment entre Français et Britanniques pour, pourquoi pas, envoyer une force qui assurerait éventuellement un cessez-le-feu. Si on doit envoyer, par exemple, j'ai n'importe quoi, 10 000 soldats français sur place, déjà, est-ce qu'on les a et est-ce que ça signifie vraiment 10 000 hommes ou est-ce qu'il en faut plus si on veut assurer une rotation et être sur place en permanence?
Alors, là, il y aura des discussions à mener avec nos partenaires européens. Je pense que la France ne serait pas seule à déployer des troupes en Ukraine. Le président de la République a rappelé récemment que ce déploiement de troupes ne serait envisagé qu'une fois la paix établie et une fois que la sécurité de nos soldats sera garantie. Donc on peut pas... difficile de se prononcer aujourd'hui exactement, précisément, sur le nombre le volume de forces qui serait déployé.
Mais forcément, est-ce qu'on a des hommes disponibles pour envoyer comme ça, nous, en Ukraine?
Alors, les armées françaises sont toujours prêtes.
Oui, mais dans quelle proportion?
Après...
1000, 5000, 10 000, 20 000.
Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas personnellement travaillé sur ces sujets-là. C'est effectivement des sujets qui sont étudiés. On réfléchit à ces sujets-là à l'état-major des armées. On anticipe toujours les choses. Mais je n'ai pas personnellement travaillé là-dessus.
Merci, Général Vincent Breton, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France Inter. Vous qui dirigez le Centre Interarmées de Concepts, de Doctrine et d'Expérimentation. Ça se passe à l'école militaire. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous passons donc la semaine avec des voix stars, celles de comédiens de doublage, qui nous permettent de regarder les films ou les séries en version française. Aujourd'hui, l'une des plus célèbres de ces voix, c'est Céline Monsara. Elle est comédienne de théâtre, elle pratique le doublage depuis le début des années 80. Elle est la voix d'une star américaine qui recevra vendredi en France un César d'honneur. Vous allez la reconnaître.
Vous reconnaissez ma voix parce que je l'ai prêtée, vendue à des comédiennes qui ont beaucoup, beaucoup tourné, et dont une qui est une star. Je dois dire son nom?
Oui.
Julia Roberts, voilà. Mais pas que. Alors, je m'appelle Céline Monsara, je suis comédienne et je fais du doublage. Vous vous souvenez de moi?
You work on commission, right?
Yes. Vous travaillez à la commission, je crois.
Big mistake.
Bien fait. Grosse erreur. J'ai des courses à faire. Je vous laisse.
Ça, Céline Monsara, c'est une scène de Pretty Woman, une des scènes très très connues. C'était il y a 33 ans.
Ouais. Et je n'ai pas changé. C'est ça qui est formidable avec la voix. Avec la voix, ça ne change pas beaucoup.
Vous avez pris du plaisir à cette scène?
Ouais, beaucoup. Mais à tout, ce film, Conte de fées, c'est magnifique. C'est pour ça que ça a marché, quoi. Je pense qu'il ne s'attendait pas, et d'ailleurs, quand on l'a doublé, on ne s'attendait pas non plus à ce que ce film fasse un carton et soit aussi le film d'une génération. C'est assez incroyable.
La rencontre, je mets des guillemets, avec Julia Roberts, ça se passe comment?
Il faisait des essais pour Pretty Woman. J'étais dans la salle d'attente d'un studio et il se trouve que j'attendais pour un autre film. Et le directeur de plateau, que je connaissais bien, me dit « Écoute, on s'arrache un peu la tête parce que les Américains nous refusent tous les essais qu'on a faits. » Et donc, il me passe cette fameuse scène où elle est dans l'hôtel avec Richard Gere. Et donc, je passe cet essai. Voilà, j'étais au bon moment, au bon endroit. Et puis, quelques temps après, on m'a dit, ben, c'est toi.
Est-ce que vous savez ce qui a fait la différence ?
On m'a dit, et ça s'est confirmé, que j'avais été castée sur le rire. Parce qu'on a des rires très proches. Oh Je suis tellement heureuse de la retrouver à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Et puis, quand vous connaissez une comédienne comme ça, il y a une intimité qui s'installe. Vous savez ce qu'elle va faire. Elle est inattendue dans plein de choses. Mais il y a un petit truc qui fait que vous vous dites « Ah, ça, elle va le faire. » Et elle le fait. C'est magique. C'est vrai que j'ai une voix assez identifiable et qu'on me reconnaît souvent. Vous arrivez à la caisse d'un magasin et puis on vous dit « Mais je connais votre voix. » Alors, je dis « Ben... » Oui, peut-être, je ne sais pas. Et donc, alors, à ce moment-là, il se creuse la tête. Donc, ça dépend de l'âge de la personne. Par exemple, à une époque, on me reconnaissait beaucoup pour la voix d'une des drôles de dames, Cheryl Ladd, ou des petites maisons dans la prairie. Julia Roberts aussi, avec Pretty Woman.
Comment vous définiriez le travail de comédien de doublage ?
On essaie de trahir le moins possible, parce que c'est une trahison le doublage. Hein, vous avez la tête de quelqu'un et la voix de quelqu'un d'autre. On essaie de rendre au plus près le jeu du comédien à l'image, mais tout en ne s'oubliant pas soi-même. Et c'est ça, en fait, qui est assez difficile. Vous jouez à jouer. Moi, j'ai trouvé ça hyper confortable, parce que d'abord, j'étais d'une timidité maladive. J'aimais bien être cachée derrière le personnage à l'écran.
Ça vous arrive de regarder les films avec Julia Roberts en VF pour vous réécouter ?
Ça m'arrive. Alors, bon, j'ai réécouté comme tout le monde parce qu'il le passe au moins une fois par an, Pretty Woman. C'est rigolo parce qu'il y a des moments où je ne me reconnais pas tellement ma voix grimpe dans les aigus. Ben, je regarde les films en VO, hein. Mais regardez-les en VF !
On peut faire les deux. Céline Monsarrat, la voix française de Julia Roberts avec Cécile Bidot. Vous la retrouvez en son et en vidéo sur notre site et sur les réseaux sociaux de France Inter. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50. Nous sommes avec notre linguiste, spécialiste du français de nos régions, c'est Mathieu Avanzi. Mathieu, les relations sont très tendues en ce moment entre la France et l'Algérie. Et vous nous rappelez que la langue française, durant la colonisation, s'est enrichie en Algérie. Des mots et des expressions de nos régions en témoignent ?
Effectivement, Jérôme, le français est arrivé en Algérie à la fin du 19e siècle et il s'est développé dans un contexte fondamentalement multilingue. Il a côtoyé bien entendu l'arabe, mais aussi d'autres langues du pourtour méditerranéen, comme l'espagnol, l'italien, le français et d'autres langues régionales du sud de la France. Alors je vous donne sans plus tarder quelques exemples de ces mots qu'on qualifiait naguère de « pieds noirs », des mots qui continuent d'ailleurs d'exister aujourd'hui. On peut commencer avec le mot alach, qui désigne une grosse sardine et qui vient directement de l'espagnol alacha. Il y a sinon scaragol, qui rappelle le catalan caragol et qui signifie escargot. Et puis je pourrais sinon vous parler du crépone, un mot aux sonorités italiennes qui désigne un sorbet au citron. Je voulais aussi vous rappeler qu'à l'inverse, il y a pas mal de mots algériens qui sont arrivés en métropole. Certains sont entrés il y a assez longtemps dans la langue pour qu'on les connaisse tous. Je pense à casbah pour maison, flouze pour argent ou ferfissa pour aller vite. Il y en a d'autres, ils sont surtout utilisés par les jeunes et donc moins connus. Tenez, si je vous dis que j'ai chouffe la vidéo de la zouze qui agare une meuf miskina, je signifie que j'ai regardé une vidéo où une pauvre fille se fait humilier par une autre.
Heureusement que vous avez traduit pour nous, Mathieu. Mais il y a aussi des mots qu'on retrouvait plus largement en France et dont certains viennent de nos régions.
Certains termes qui étaient courants en Algérie faisaient écho en réalité à des usages bien ancrés dans certaines régions de l'Hexagone. Prenez par exemple le mot potager. À Paris, on pense tout de suite au jardin où on cultive ses légumes, mais autrefois, dans le midi de la France, quand on parlait de potager, on faisait avant tout référence au fourneau à bois qui trônait dans la cuisine, celui où on préparait le potage pour le repas. Mmh. Un sens qui a presque disparu dans nos régions, mais qui est resté bien vivant en Algérie. Et puis il y a des expressions comme s'en sauver, qui signifie s'enfuir, et qu'on entend encore assez fréquemment dans la grande région de Marseille. Et bien sûr, côté gourmandise, on va retrouver à Alger les oreillettes originaires de Provence, ces beignets fins et croustillants qu'on appelle aussi localement merveilles. Et tenez, vous savez comment on dit chocolatine en Algérie ?
Aucune idée.
Eh bien, on dit petit pain, comme en Alsace, parce que beaucoup de boulangers installés en Algérie étaient originaires de l'Est de la France.
Au final, Mathieu, ces mots racontent une histoire beaucoup plus large.
En effet, Jérôme, j'ai même envie de dire que ces emprunts mutuels sont la preuve d'un brassage linguistique constant et continu entre les deux pays. Ils nous rappellent que malgré les tensions, la langue française s'est nourrie des échanges humains, qu'ils soient liés aux migrations, au commerce ou à l'histoire coloniale. Ce métissage linguistique témoigne donc de la manière dont une langue évolue au contact des autres. Et après tout, comme on dit en Provence et en Algérie, scapa, sauf qui peut, mais surtout, ne perdons pas nos mots.
Merci Mathieu Avanzi, notre linguiste. Chaque lundi dans ce 13-14, de C'est la France à C'est une chanson, c'est le comédien Vincent de Dienne que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Il est actuellement à l'affiche du théâtre de l'Atelier à Paris dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est dans Il ne m'est jamais rien arrivé, tiré du journal intime de Jean-Luc Lagarce. Spectacle magnifique, délicat, drôle, bouleversant. Et c'est une chanteuse dont la voix a bercé son enfance que Vincent de Dienne a souhaité que l'on écoute, une femme devenue par la suite son amie, Anne Sylvestre.
C'est vraiment mon premier contact avec la langue, avec la poésie, avec l'émotion, avec la chanson, avec les fabulettes. J'ai vraiment été biberonné par tout ce répertoire pour enfants.
Donc là, vous êtes tout petit, vraiment?
Ah ouais, là, je suis tout petit, puis je grandis. Mais je ne cesse de les écouter. Puis un jour, je suis trop vieux pour écouter les fabulettes, donc je bascule sur le répertoire pour adultes. Et là, je découvre que les fabulettes étaient l'arbre qui cachait une forêt majestueuse et magnifique, puisqu'il y a, je sais pas, plus de 500 chansons pour adultes, je crois, dans le répertoire d'Anne Sylvestre, qu'on méconnaît un peu. Parce que c'est vrai que quand on pense à Anne Sylvestre, on pense beaucoup aux chanteuses pour enfants, ou on pense aux gens qui doutent, qui est aussi un arbre qui cache la forêt, puisqu'on entend beaucoup cette chanson, mais il y a derrière un répertoire gigantesque et bouleversant. J'ai vendu les manèges où vous ne viendrez plus. J'ai déjoué les pièges que vous m'aviez tendus. J'ai rendu les patins, j'ai démonté la piste. Je veux encore danser, mais plus de valse triste. Vous pouvez vous enfuir sur les chevaux de bois, émiettant vos sourires à mon cœur aux abois. Pour moi, je filerai sur un vélo doré, retrouver mon enfance où je l'avais laissée.
J'ai vendu les manèges où vous ne viendrez plus. J'ai déjoué les pièges que vous m'aviez tendus. J'ai rendu les patins, j'ai démonté la piste. Je veux encore danser, mais plus de valse triste. Vous pouvez vous enfuir sur les chevaux de bois, émiettant vos sourires à mon cœur aux abois. Pour moi, je filerai sur un vélo doré, retrouver mon enfance où je l'avais laissée.
Cette chanson qu'a choisi Vincent de Dienne, Frédéric, a pour titre Manège.
Une chanson sortie sur le tout dernier album d'Anne Sylvestre en 2019, quelques mois avant sa mort.
J'ai choisi celle-ci parce que c'est la dernière qu'elle a écrite et composée. Et puis ça me rappelle la dernière fois que je l'ai vue, quand elle est remontée sur scène pour la dernière fois. Elle avait chanté cette chanson qui était une nouvelle composition qu'on découvrait. Et puis elle a la saveur de l'adieu, quasiment du testament, puisque c'est là-dessus qu'elle nous a laissé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'enfance. C'est comme si elle était arrivée à un moment où elle rejoignait l'enfant qu'elle a été. Ouais.
C'est ça que vous comprenez?
Ben oui, c'est une vieille dame qui chante et un enfant en même temps, donc ça me bouleverse. Et quand on connaît bien Anne Sylvestre, quand on connaît son répertoire, sa vie, sa biographie, elle a une sœur qui s'appelle Marie Chey et qui a écrit des romans et qui a été la première à parler du père, qui a été un collabo, quoi. Donc ça a été tout un sujet, ça, dans sa vie, Anne Sylvestre, de se défaire de ce poids, de ce père qu'elle aimait beaucoup, mais qui a été collabo. Et donc l'enfance, c'est un sujet très particulier dans toute l'œuvre d'Anne Sylvestre, et je trouve que cette chanson, à la fin de sa vie, d'écrire cette chanson, c'est comme une réconciliation, comme un pardon. On dirait la fin d'un ruisseau, quoi, la fin d'une rivière, le moment où le fleuve se jette dans la mer et où tout s'apaise et tout se résout.
La licorne de ses sabots qui frappe le tempo, touche de suie, touche de neige, comment faudra-t-il que j'arpège sur ce piano qui joue solo, sur ce piano qui joue solo.
Quand vous la rencontrez, ça se passe comment? C'est quoi les circonstances?
C'est grâce à un ami qui la connaissait un peu. Puis un jour, elle a bien voulu qu'on se rencontre. Enfin, c'était dans le 20e arrondissement à côté de chez elle, dans un café, sur une petite place. Une petite place qui n'a pas de nom, d'ailleurs, dans Paris. Et je me bats avec la mairie de Paris depuis des années maintenant, pour que cette petite place porte son nom, parce que c'était vraiment à côté de chez elle, dans le 20e arrondissement. Et elle arrive au rendez-vous au café, et elle est un peu grognon. Et puis je sens qu'elle porte le parfum sable d'Annick Goutal, qui est un parfum que je connais. Et je lui dis « Ah, vous portez sable d'Annick Goutal ?» Et là, tout se décoince et tout se décrispe. Et on devient amis à ce moment-là.
C'était le parfum de qui?
C'était le parfum d'un ex. et d'un metteur en scène et ami que j'admire beaucoup, il s'appelle Michel Raskin. Mais je connaissais bien ce parfum, quoi. Voilà.
Les petits bateaux bleus à la quille, le sulot d'azur, la douce aventure, c'est comme la vie, trop vite finie, on n'est jamais sûr d'avoir tout compris.
Est-ce qu'elle continue à vous bouleverser, Anne Sylvestre, quand vous l'entendez?
Mais surtout, je continue à découvrir des chansons et d'être épaté, quoi. Ça, c'est merveilleux d'être encore épaté par une amie, une chanteuse qui n'est plus là. C'est le sentiment peut-être le plus agréable dans la vie, d'être épaté par les gens qu'on aime.
Mais rien n'effacera ce qui nous fait frémir et valser aux éclats sur le pont des soupirs.
Manège, Anne Sylvestre, c'était donc Frédéric, le choix de Vincent de Dienne.
Vincent de Dienne, que vous pouvez retrouver au Théâtre de l'Atelier dans deux spectacles, Il ne m'est jamais rien arrivé et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.
Merci Frédéric.